Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Bon réveil, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump face à un impeachment historique. Une semaine après l'assaut du Capitole, la Chambre des représentants demande au vice-président Mike Pence de destituer le président sortant pour l'empêcher ensuite de se représenter. Une vingtaine de sénateurs républicains seraient tentés par cette destitution, y compris leur chef de file au Sénat, Mitch McConnell. Enjeu décrypté à Washington dans un instant, alors que Donald Trump promet de revenir hanter Joe Biden et son administration.
Et puis en France, un conseil de défense sanitaire pourrait décider de nouvelles mesures pour contenir la hausse des contaminations au Covid.
Peut-être de nouveaux territoires sous couvre-feu dès 18h, mais la mesure est jugée contre-productive par le président de la CCI de Meurthe-et-Moselle. Les gens se ruent, dit-il, dans les magasins à la sortie du travail.
Et puis l'une des clés pour sortir de la pandémie, la vaccination et les tests.
Réalisés à tour de bras, y compris par des étudiants en médecine, à Lyon par exemple, ils réclament plus que les 2,60€ de l'heure pour lesquels ils sont payés.
Elle a vu encore des bébés enterrés dans des boîtes à chaussures sans pierre tombale.
C'est un sombre et long chapitre de l'histoire que l'Irlande accepte de regarder en face, celui des maisons pour mères célibataires, gérées jusqu'en 1998 par des religieuses, des établissements où plus de 9000 bébés sont morts de mauvais traitements et où des femmes ont été violentées et mutilées.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, opération Barkhane, la France doit-elle se retirer du Sahel ? Je poserai la question à Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement.
On le sait, le vice-président américain Mike Pence refuse d'activer cette arme constitutionnelle, le 25e amendement qui permet aux États-Unis de destituer un président. Mais la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, veut mettre Mike Pence face à ses responsabilités devant tout un pays et devant l'histoire après les violences commises la semaine dernière au Capitole à Washington. Les démocrates viennent donc de lancer une nouvelle procédure de destitution, la deuxième du mandat Trump, c'est du jamais vu. Le locataire de la Maison Blanche est accusé d'avoir incité à l'insurrection et les républicains commencent à le lâcher. Près d'une vingtaine d'élus du parti présidentiel seraient prêts à voter en faveur de cette destitution. Procédure suivie à Washington par Franck Matvon.
Il n'y a jamais eu plus grande trahison par un président des États-Unis de ses fonctions et de son serment envers la Constitution. Ces mots ne sont pas ceux d'un élu démocrate, mais de Liz Cheney, une figure majeure des républicains à la Chambre des représentants. Elle votera pour la destitution de Donald Trump et d'autres républicains vont l'imiter. De toute façon, la Chambre est majoritairement démocrate. Le texte sera donc voté ce soir. C'est au Sénat que se tiendra ensuite le procès. Et Mitch McConnell lui-même, le chef des républicains au Sénat, estime que Trump a bien commis des actes condamnables. Selon les médias américains, il voit d'un bon œil la procédure lancée par les démocrates. Il faut une majorité des deux tiers pour condamner Trump au Sénat et donc le concours de 17 républicains. Aujourd'hui, c'est possible. Le parti républicain, longtemps effrayé à l'idée de contester le président et de décevoir ses électeurs, semble prêt à tourner la page Trump. S'il est condamné, une majorité simple suffira pour l'empêcher de se présenter à nouveau à la présidentielle.
Donald Trump, plus isolé que jamais, l'animal blessé se montre combatif. Hier, il a obstinément refusé de reconnaître la moindre responsabilité dans l'assaut contre le Capitole, jugeant que son discours où il encourageait ses partisans à marcher sur le Congrès la semaine dernière avait été, je cite, « tout à fait convenable ». Donald Trump, Janus Bifrons, en ce début d'année, il a également montré un autre visage, parlant de temps de paix depuis Alamo au Texas. Il s'est rendu dans cet état du sud des États-Unis hier pour faire le bilan à la frontière mexicaine de la construction de son mur, ou plutôt de ses fragments. Certains de ses partisans et de ses opposants étaient là. Sébastien Paour, aussi pour France Culture.
D'un côté, une poignée de démocrates qui diffusent un morceau de rap explicite. De l'autre, les klaxons des pick-up couverts de drapeaux Trump. Des partisans du président qui n'envisagent toujours pas son départ à 8 jours maintenant de la fin de son mandat et trouvent n'importe quelle raison, comme Elisabeth, pour empêcher les migrants de traverser le Rio Grande. Le fait est que c'est vraiment dangereux. Et la raison d'être du mur, c'est de les empêcher de faire ça. Parce qu'ils risquent leur vie et celle de leurs enfants. Côté démocrate, voici Zach, qui estime qu'il est bien utile pour Trump d'être loin de la capitale capital où l'on cherche une nouvelle fois à le destituer. Je pense qu'il veut être aussi loin de Washington que possible, dans un endroit profondément rouge, c'est-à-dire le Texas. Je crois qu'il ne vient ici que pour flatter son ego. Trump, lui, a filé à Alamo et dos au mur, il balaie sa possible deuxième procédure de destitution. Le 25e amendement ne présente aucun risque pour moi, mais nous reviendrons pour hanter Joe Biden et son administration. La plus apaisée ici, c'est Lorena, qui compare chaque côté du mur aux deux pôles du pays. Je pense que nous devons aller au-delà de ce mur. Nous avons besoin d'un leader fort qui trouvera les mots dont nous avons besoin pour nous rassembler. Parce qu'en ce moment, le pays est fracturé. Elle espère que Joe Biden sera ce président rassembleur.
En attendant, l'un des derniers actes de la présidence de Donald Trump, c'est le feu vert donné à la première exécution d'une femme après plus de 70 ans. Un feu vert donné par la Cour suprême, dominée par les conservateurs, nommée en partie par Donald Trump. Par ailleurs, les États-Unis ont franchi un nouveau record hier avec près de 4500 morts du Covid et plus de 235 000 nouvelles contaminations recensées en 24 heures seulement.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Au Liban aussi, les contaminations ont explosé ces derniers jours.
Après un assouplissement des restrictions lors des fêtes de fin d'année, plus de 3000 cas enregistrés chaque jour pour 4 millions d'habitants. Le système de santé libanais est saturé et à partir de demain matin, interdiction de sortir de chez soi en journée. Même les magasins d'alimentation vont fermer, ce qui entraîne dès aujourd'hui de longues files d'attente à l'extérieur des magasins, bondés, et des queues également à l'intérieur avec des caddies qui débordent. Sans commune mesure, en France, le président de la CCI de Meurthe-et-Moselle, François Pélissier, estime que rallonger la liste des départements sous couvre-feu à partir de 18h aujourd'hui, après un nouveau conseil de défense sanitaire, rallonger cette liste serait une mauvaise idée. Il parle de l'expérience de son département.
On a des premiers retours et objectivement, au bout d'une semaine, on ne peut pas dire que la situation soit réjouissante. Au niveau des grandes surfaces, le chiffre d'affaires est quasiment identique, mais avec un taux de fermeture de 12 heures par semaine en plus. Ce qui veut dire qu'on accumule les flux de personnes et de visiteurs dans des plages horaires plus courtes, puisque les gens aujourd'hui, en sortant du travail, doivent faire leurs courses, donc ils vont vite en grande surface parce que c'est l'alimentaire qui prime. Et tout ce qui est à côté de l'alimentaire est devenu totalement secondaire. Dans le commerce de centre-ville, c'est 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins, que ce soit dans l'habillement, dans la maison, même chez les coiffeurs. Aujourd'hui, c'est quand même une bérésina qui s'annonce.
François Pélissier, le président de la CCI de Meurthe-et-Moselle, il répondait à Julien Langlais. Freiner la propagation du Covid, cela passe par des tests PCR proposés gratuitement, comme au Palais des Sports de Lyon-Gerland. 55 000 tests ont été effectués depuis fin septembre, réalisés en partie par des étudiants en médecine appelés en renfort. Mais voilà, une partie d'entre eux s'en inquiète car c'est du temps en moins sur leurs études et ces actes nécessiteraient selon eux une rémunération supplémentaire. Le reportage à Lyon de Mathilde Imberti.
À partir de lundi, les externes en quatrième année de médecine effectueront des prélèvements PCR dans le grand centre mis en place par la ville de Lyon. Une formation leur est dispensée en amont. Ces 5 jours de travail sont décomptés de leur période de stage. C'est le premier problème pour Roxane Elantieu-Pro, représentante étudiante à Lyon Sud, en plus de l'aspect financier.
On nous ampute 1 semaine sur 6 de stage hospitalier. C'est vraiment du temps dont on a besoin pour développer notre projet professionnel plutôt que d'aller tester à la chaîne. On l'a si dans le cadre actuel, c'est que juste on sera rémunéré notre salaire d'externe, qui n'encadre pas ces missions, donc 2,60 euros de l'heure, alors que n'importe quel professionnel de santé serait payé le SMIC.
Pour les hospices civils de Lyon, Frédéric Laurent, le responsable des centres de dépistage, expose l'intérêt de cette expérience pour les étudiants et le serment d'Hippocrate.
Ils ont un contrat d'externe aux hospices civils de Lyon pour venir faire leur stage dans le cadre des hospices civils de Lyon, et ils sont rémunérés comme s'ils étaient en stage. Ça leur permet de voir des patients qui sont vieux, qui sont âgés, qui sont moyennement âgés, qui sont jeunes, ils voient des enfants, ça fait partie de la formation, c'est des choses qui sont intéressantes à faire et on ne fera pas de bénéfice là-dessus. Et puis, je rappellerai aux étudiants le serment d'Hippocrate. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est face à une pandémie qui a tué 60 000 de nos compatriotes et qu'on doit faire face à cette crise-là.
Pour l'instant, les étudiants ne peuvent pas vacciner, leur mission se limite au prélèvement. Ces coups de pouce doivent être mieux rémunérés partout en France, demande l'Association des étudiants en médecine de France qui a saisi les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé.
Et si, pour voyager, nous devions être vaccinés contre le Covid? Le Premier ministre grec a proposé hier la création d'un passeport vaccinal européen. La Haute Autorité de Santé a rétorqué que cela n'avait pas de sens tant que l'on ne sait pas si le vaccin bloque effectivement la transmission du virus. Mais l'idée fait son chemin auprès du MEDEF notamment, où son président a évoqué cette idée pour reprendre les salons professionnels. Thomas Giraudeau.
Un passeport vaccinal, sur le papier, pourquoi pas, mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé pour Frédéric Pitrou, délégué général de l'Union française des métiers de l'événement.
Les participants, ils n'ont pas 75 ans et plus, etc. Donc le temps qu'on arrive à vacciner ces gens-là, ça va mettre un peu de temps. Et puis, on a le sentiment que ça va être un nid à contentieux, puisque le vaccin n'est pas obligatoire. De quel droit on peut se donner la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter des participants?
Aujourd'hui, il faudrait une loi pour instaurer un passeport vaccinal, et encore, l'obligation devrait être limité à des lieux, des événements bien précis pour ne pas violer les principes de liberté individuelle et de mouvement. Philippe Brocard organise le salon Maisons et Objets à Paris. Il propose une alternative.
Il y aurait vraisemblablement la nécessité peut-être d'avoir des tests négatifs avant de parler de vaccination. Je ne suis pas certain qu'on puisse déployer une telle mesure avec des accords avec, je sais pas, une centaine de pays qui sont amenés à visiter ou à exposer sur notre salon.
Quelle que soit la solution retenue, il y a urgence à relancer une activité au point mort. Aziz Bentaleb gère le traiteur Calixir spécialisé dans les salons.
On est début janvier, j'ai zéro de visibilité jusqu'à la fin de l'année. On vous dit demain, on autorise le restaurant d'ouvrir. En 48 heures, son restaurant commence à travailler. Nous, on nous dit, demain vous ouvrez, ça va mettre 2-3 mois pour que cette machine se mette en route. Et c'est pour ça que les traiteurs aujourd'hui, il y en a qui déposent le bilan, et il y en a qui ferment.
Et c'est tout un écosystème qui souffre de l'arrêt des congrès et salons. En Ile-de-France, le tourisme d'affaires représente la moitié des nuitées.
En Irlande, le Premier ministre va présenter aujourd'hui des excuses officielles aux victimes des maisons pour mères célibataires. Ces établissements, gérés par des religieuses, ont accueilli jusqu'en 1998 des femmes tombées enceintes hors mariage. Leur famille voulait les soustraire au jugement populaire ou les éloigner par honte dans ce pays catholique. La réalité, sordide et meurtrière, 9000 bébés sont morts en l'espace de 60 ans dans ces maisons pour mères célibataires où les jeunes femmes étaient également maltraitées, voire mutilées selon une commission d'enquête Émeline Vin.
Principale révélation du rapport, les bébés mouraient deux fois plus dans les maisons pour mères célibataires que dans le reste de l'Irlande. En partie à cause de la négligence, de la malnutrition et des mauvaises conditions de vie. Ces nourrissons étaient souvent enterrés dans des boîtes à chaussures sans pierre tombale. Ces maisons ont souvent été le seul refuge de ces femmes quand leurs familles les allaient chasser, souligne le rapport. Des refuges où étaient pratiquées moqueries, travail forcé, voire mutilation durant l'accouchement pour expier le péché. La commission pointe plusieurs responsables, l'Église et l'État pour leur édiction des normes sociales, la société pour son indifférence et les pères de ces enfants conçus hors mariage. Le rapport remis ce mardi avance plusieurs recommandations, des excuses officielles de la part du gouvernement, mais surtout des dommages et intérêts pour les survivantes, et puis l'ouverture des archives, que les enfants puissent accéder à leur certificat de naissance, connaître l'identité de leur mère biologique, et que les mères ayant perdu un bébé puissent savoir où celui-ci est enterré, même si les documents ont souvent disparu.
Après l'Argentine qui a légalisé l'IVG le mois dernier, les féministes au Chili comptent bien relancer le débat sur ce sujet dans leur pays. Une proposition de loi pour dépénaliser l'avortement au Chili sera examinée à partir d'aujourd'hui par les députés. Le temps de ce mercredi 13 janvier, pluvieux au nord, neigeux dans les Alpes, variable dans le reste du pays, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera de 3 à 14 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. À 7h25, le reportage de la rédaction, il nous emmènera en Calabre, où plus de 350 mafieux vont être jugés à partir d'aujourd'hui. Et puis dans quelques instants, on évoque l'opération Barkhane. La France doit-elle se retirer du Sahel ?